Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
En chemin avec Edith Stein, c'était le programme que je vous ai proposé depuis le début de la semaine avec pour intervenant, auteur, docteur en philosophie, Éric de Rus, auteur de nombreux livres, entre autres sur la pensée d'Edith Stein, la vision éducative d'Edith Stein, et puis cette thèse, anthropologie phénoménologique et théorie de l'éducation dans l'œuvre d'Edith Stein, parue aux éditions du CERF. Je reprends donc un de vos articles où vous écrivez ceci. Edith Stein enseigne l'importance de désapprendre la mauvaise virtuosité, là est la révolution, la conversion, délaisser la violence inouïe de la performance, journellement infligée à soi-même et aux autres, pour apprendre à œuvrer paisiblement en état de repos. Oui. C'est une leçon de vie, une leçon de vie.
C'est vraiment une leçon de vie et pour moi le premier, parce que nous sommes quand même pris tous dans un système, un mode même d'éducation, disons-le, qui est dicté par la virtuosité, souvent pour elle-même, et la performance. Mais au prix de quoi ? Au prix de quoi ? Quand on voit comment et quelle violence on doit en permanence s'infliger pour souvent finalement entrer à l'intérieur de carcans qui nous laissent à distance finalement des questions et des textes, de sorte que ça devient, la vie de l'esprit devient un pur jeu intellectuel où on n'engage rien de soi, où on manipule les questions, où on utilise les textes pour se faire valoir et pour briller.
On est dans une intelligence mondaine ?
Ah ben, complètement mondaine et qui est trahie, qui est profanée, parce qu'on disait au départ que étymologiquement, intus legere, c'est lire à l'intérieur. Là, on est totalement à la surface. Mais on est aussi le fruit de ce système-là, quand on passe des concours exigeants, académiquement, tous à quelque niveau que ce soit dans l'entreprise aujourd'hui, enfin, c'est quand même ceci qui prévaut. Et Edith Stein a connu cela, parce que pendant sa thèse, elle a connu à la force du poignet, elle était volontariste, à la force du poignet, elle a tellement exigé d'elle-même qu'elle est tombée dans une très grave dépression. Et pour moi, Edith Stein, c'est aussi un chemin de conversion, justement, de la performance vers l'amitié avec la vie, entrer en amitié avec la vie. Et pour moi, ça, je l'ai vécu à l'égard du texte, entrer en amitié avec un texte. Ce n'est pas en faire une matière dont je vais me servir pour briller, pour imposer ou pour paraître. C'est au contraire, entrer en amitié veut dire rejoindre la vie du texte, mais en rejoignant d'abord le plus profond de moi-même. Donc c'est un chemin d'abaissement, c'est un chemin d'intériorité, c'est aussi un chemin très concrètement qui demande du temps, parce que quand vous êtes dans la performance, il faut aller vite, donner l'impression que l'on sait même si l'on ne sait pas, même si on doit mentir ou vraiment flatter. Non, il faut entrer dans un temps long, durer, piétiner, souffrir aussi, et puis découvrir. Et tout cela, on ne nous l'apprend plus ou trop peu. Et pourtant, si on n'apprend pas à entrer en amitié avec la vie, eh bien, on est mort avant la mort. Et la grande question, et ça aussi, Edith Stein nous l'enseigne, la grande question, ce n'est pas d'être fasciné par ce qui va se passer après la mort. Jésus a donné assez peu de détails. Bien sûr, il y a un jugement. Bien sûr, seul l'amour compte. Mais comment vivons-nous ici-bas ? Et quel usage faisons-nous du temps dont nous disposons ? On ne peut pas dire, comme disait une mystique, que la vie est courte. Par contre, on doit dire que le temps nous est compté. Ce n'est pas la même chose. Le temps nous est compté. Et donc, il faut non pas essayer d'en gagner, mais il faut pouvoir le perdre pour ceux qui méritent qu'on le perde. Et qu'est-ce qui mérite qu'on le perde ? Eh bien, d'aimer, d'écouter ce qui nous anoblit, ce qui nous élève, ce qui nous donne beaucoup. Et ce texte m'a beaucoup donné.
Une Edith Stein pour notre époque ?
Complètement. Vraiment.
Dans un monde qui qui ne compte plus dans un monde de performance, dans un monde dans des métiers aussi où les hommes et les femmes font carrière.
C'est ça, Edith Chan, ça aussi c'est très frappant, bien sûr.
Et ce besoin de briller, Edith n'avait plus besoin de briller.
Mais à partir d'un certain moment, c'est vrai que toute jeune, elle écrit.
Vous permettez, c'est la vérité qui prend le dessus.
Ah mais qu'il a toujours eu et qu'il apprend sur sa vie, vous avez raison. Elle consent à cette vérité. Edith Stein, très jeune, disait qu'elle se sentait promise à la gloire. Mais forcément, l'idée qu'elle se faisait de la gloire n'était pas la gloire à laquelle elle était promise. Mais le désir de gloire, il est dans le cœur humain. C'est normal, en effet, pour la gloire. Mais de quelle gloire parle-t-on et au prix de quoi ? Donc Edith Stein a appris à perdre pour gagner. Elle a appris à perdre. Elle a vu les portes des universités se fermer. Elle a vu progressivement l'impossibilité d'enseigner la frapper. Au Carmel, on ne peut pas dire qu'elle ait été particulièrement reconnue en son temps. Donc, elle a appris à perdre, à s'abaisser, mais elle a suivi une ligne intérieure en amitié avec la vie. Elle a vécu en amitié avec la vie, avec le vivant, avec le Christ lui-même. Donc, finalement, elle a traversé la mort.
Et au fond, dans cette quête de vérité, oui, qui est toute l'œuvre et tout le chemin d'Edith Stein, c'est cette vérité tant cherchée, oui, dans ce sens de la vie, oui, qui va venir la transformer, la sauver.
Complètement, qui va venir...
Et qui l'a conduit au pied du Sauveur.
Et qui l'a conduit au pied du Sauveur, vous avez tellement raison, parce qu'elle écrit notamment à l'un de ses amis que sa conversion, elle avait éprouvé à sa conversion l'impression que peut éprouver quelqu'un qui se noie lorsqu'il est arraché des flots par une main qui le fait entrer dans la lumière. Donc Edith Stein, elle s'est su sauver, elle a fait l'expérience de se sauver. On ne se sauve pas seul, on ne s'en sort pas seul, comme on voudrait nous le faire croire. On s'en sort en s'abandonnant. L'acte le plus haut de la liberté, dit-elle, c'est l'abandon. L'acte le plus élevé de la liberté, c'est l'abandon. C'est quand je m'abandonne que j'exerce ma plus haute forme de liberté. Mais attention, pas à n'importe quoi, ni à n'importe qui, mais à la vérité même, qui est le roc, comme on disait, ce sur quoi je peux m'appuyer, en quoi je peux me fier. Croire veut dire se fier. Croire, c'est s'abandonner à la vérité qui est plus solide que tout et sur laquelle je peux bâtir mon existence. C'est le chemin d'Edith Stein.
Oui. Quel est le message ? L'abandon ?
L'abandon comme le fruit le plus pur de l'amour et comme l'expression de notre liberté. Les deux se rejoignent. L'amour et la liberté se rejoignent dans l'abandon. Je ne suis jamais aussi libre que quand je m'abandonne à l'amour. Et c'est notre destinée ultime.
Ce travail qui s'est achevé, ce travail de thèse autour de l'œuvre d'Edith Stein, a transformé l'homme que vous êtes aujourd'hui, toujours à l'écoute.
Je crois.
Cette intériorité aussi au-dedans.
Oui. Je crois qu'on est transformé. On ne s'aventure pas.
On ne sort pas indemne.
Non, exactement.
D'un tel travail.
Exactement. On ne sort pas indemne. On est transformé. Même si on l'évalue difficilement soi-même, mais notre rapport à l'existence s'en trouve enrichi, approfondi. Je dirais pour moi aujourd'hui, j'ai la phrase d'une mystique contemporaine qui dit il ne s'agit pas de continuer. Il s'agit de créer. Et aujourd'hui, au moment où je me trouve, je me dis que je n'ai pas fait le tour du tout de la profondeur de cette œuvre et que continuer pour moi, ça sera créer en permanence, c'est-à-dire découvrir, pas répéter, mais créer les textes, créer une parole qui porte vie. Voilà, créer parce que recevoir ce qui est plus grand que moi, c'est ça qui fait qu'on crée. Et je dis, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire le texte, c'est de le chanter, de lui prêter voix.
C'est le poète, hein ?
Oui, parce que je crois...
En vous.
Oui, parce que vous savez, Edith Stein parle du texte comme une mélodie, et elle a écouté les leaders, et les leaders, c'est un genre musical où la mélodie et les mots fusionnent. Je crois que quelque chose qui m'attire aujourd'hui, c'est de reprendre tous ces textes comme j'écoute une musique venue d'un amour immense auquel j'aimerais prêter voix. C'est sacré aujourd'hui pour moi, mais c'est une aventure, je suis sur le seuil.
D'autres projets d'écriture ?
Oui, peut-être un futur livre qui s'intitulerait « Prêter voix sur la vocation de l'interprète ». C'est aussi le fruit de toute cette aventure, mais qui dépasse aussi le seul rapport au texte. On a tous à interpréter la vie. C'est au-delà du texte, au-delà
donc,
du chercheur.
Donc au fond, on est tous des créateurs.
Mais oui, parce qu'on est fait à l'image du seul créateur. Être créateur, c'est être co-créateur. Edith Stein dit co-créateur. On est co-créateur. C'est notre vocation. Voilà.
Merci infiniment de votre participation cette semaine dans cette série des clés pour vivre, des clés peut-être pour vivre et approcher l'œuvre d'Edith Stein et cette figure de femme dans cette vocation et cette quête de sens, cette quête de vérité qui la conduira à donner sa vie jusqu'au bout.
Exactement, pour ses frères et sœurs en humanité.
Merci et à très bientôt.
Merci beaucoup pour votre confiance. Au revoir.
Thank you.